l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Millau, 106.5.
C'est une belle émission que nous vous proposons tout de suite sur Radio Présence. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver entre 12h et 13h. Alors je vous disais, une émission intéressante puisque vivre sa retraite autrement, autonomie, sécurité et convivialité à Lourdes avec une nouvelle résidence senior, elle s'appelle la résidence Stella. David Torchala était parti à enquêter pour savoir qu'est-ce que c'était cette nouvelle. C'est pas un EHPAD, c'est pas une maison de retraite, c'est entre les deux. Vous allez découvrir une structure très intéressante si vous restez à notre compagnie. Et puis, on partira dans le Gers, comme nous le faisons grâce à Pauline Cazier. On découvrira deux jeunes filles, Léa Del Védov et Audrey Laborde, qui vont toutes les deux, elles sont gersoises, et elles vont partir pour le 4L Trophy. Elles vont nous parler de cette aventure. Elles ont peut-être aussi besoin d'un petit peu d'aide financière. Vous l'entendrez donc dans ce reportage de Pauline Cazier. Elles étaient au marché d'Auch, pas plus tard que samedi dernier, sous la pluie, sous le vent, et elles étaient là pour présenter leur projet. Voilà, deux jeunes qui ont envie de faire ce 4L Trophy. Et puis, d'un jour, on livre un auteur, Philippe Diego et Philippe Noni, Diego Arabal, pardon, et Philippe Noni, aujourd'hui, vont s'entretenir avec un avocat. Alors, pourquoi un avocat? Eh bien, parce que cet avocat a écrit un livre, et si Jésus avait eu un avocat pendant son procès, que se passerait-il? Si le procès de Jésus devait avoir lieu aujourd'hui, comment se passerait ce procès? Car en fait, Jésus a été condamné tout simplement parce qu'il disait qu'il fallait s'aimer les uns les autres, à découvrir. Mais pour l'heure, l'actualité, l'essentiel.
De nouvelles manifestations agricoles perturbent actuellement la périphérie de Toulouse. Ce matin, l'axe Muret-Toulouse sur l'A64 est bloqué. De même, il est impossible de rejoindre le périphérique. Privilégiez la sortie 38, le chapitre, comme alternative, et gardez un œil sur votre GPS pour les prochaines informations sur les blocages. Du nouveau dans l'appel au boycott du Salon de l'Agriculture 2026 par la Confédération Paysanne d'Ariège. Plutôt que de monter à Paris en février, de nombreux agriculteurs du département proposent d'accueillir les citoyens dans leurs fermes pour découvrir les exploitations et les produits locaux. Quant au Conseil départemental du Gers, il appelle lui à la responsabilité collective face aux atteintes portées aux infrastructures publiques. À la suite des actions menées ces dernières semaines sur le territoire par des agriculteurs, la collectivité a engagé des travaux sur le réseau routier. L'équipe de neurologie du professeur Xavier Erignac va proposer des consultations au centre hospitalier de Millau. L'agence régionale de santé d'Occitanie renforce l'offre de soins pour la prise en charge des patients du sud de l'Aveyron. Dès fin janvier, des consultations auront lieu deux fois par semaine pour des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, céphalées, sclérose en plaques ou encore troubles cognitifs. À Montauban, le stade du Solou fait peau neuve. La rénovation complète du revêtement synthétique est terminée. Ce chantier devrait permettre au stade de Salou d'obtenir de nouvelles homologations officielles de niveau 4 par la Fédération française de football. Celle-ci devrait bientôt rendre sa décision.
Voilà, et puis c'est une élève de l'école de journalisme et de communication de Blagnac qui est à l'ISCPA qui est avec nous, Lou Denneville, qu'on retrouvera tout à l'heure pour le journal complet, cette fois-ci aux alentours de 12h30. Comment bien vieillir? Il existe bien sûr des EHPAD, des maisons de retraite, mais une maison senior, c'est quoi? C'est ce que nous propose de découvrir David Torchala dans l'interview qu'il a fait avec les gestionnaires d'une résidence qui s'appelle la résidence Stella, les Roses de Massabielle, et qui va ouvrir prochainement à Lourdes en face de la gare.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous intéresser à un sujet essentiel qui touche de plus en plus de familles, le vieillissement, l'autonomie et les nouvelles façons de vivre le grand âge. Un nouveau lieu vient d'ouvrir ses portes à Lourdes, en plein cœur de ville, avenue de la gare, vue magnifique, c'est la résidence senior Stella Les Roses de Massabielle. Cette résidence s'adresse à des seniors autonomes qui souhaitent vivre chez eux, dans leur propre appartement, tout en bénéficiant de services, de sécurité, de convivialité, d'animation. Il y a plein de choses à l'intérieur de cette immense maison. Pour en parler, nous sommes avec Charles Langlois. Bonjour.
Bonjour David, merci de me recevoir.
Mais avec grande joie, vous êtes le directeur régional commercial de Sud-Ouest du réseau Stella. À côté de vous, il y a Ludovic Penn. Bonjour Ludovic.
Bonjour David, bonjour à tous.
Vous êtes, vous, directeur régional d'exploitation Sud-Ouest du réseau Stella. Ben oui, c'est un réseau de professionnels qui sont au chevet de nos aînés et qui viennent d'ouvrir cette grande résidence à Lourdes. Vous avez déjà vu la résidence, Delphine Perra?
Tout à fait, du début à la fin.
Et oui, parce qu'il y a eu un long temps de chantier. Oui. Donc vous allez pouvoir nous raconter ça. Mais d'abord, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ben voilà, la genèse, la naissance, peut-être vous, Charles Langlois, de cette résidence Rose de Massabielle?
Mais écoutez, ça part d'un projet, d'un besoin sur le territoire. On a ciblé cette ville afin de monter ici la résidence. Donc, grande résidence qui totalise 89 logements. Voilà, donc qui a vu le jour il y a quelques mois maintenant. Donc la construction s'est terminée il y a quelques semaines. On a réceptionné les clés. Donc on est en train de préparer l'ouverture assez sereinement. Donc avec mon collègue et avec toutes les équipes sur place. Voilà.
C'est vrai qu'il y a peut-être juste un point de géographie pour ceux qui connaissent Lourdes. Eh bien, il y a la gare de Lourdes. C'est vrai qu'une fois qu'on descend du train, on a cette ouverture magnifique sur le panorama pyrénéen et de la vallée des Gaves. Et en lieu et place de cet ancien café de la gare, une institution lourdaise, eh bien voilà, est née cette grande résidence. Ludovic Penn, si vous pouvez nous décrire, Charles Langlois nous a dit 89 chambres, mais c'est quand même un ensemble assez massif.
Oui, alors, c'est pas des chambres, c'est des appartements.
Des appartements.
On va du T1 au T3.
Je crois que là, j'ai commis une première erreur. Chambre et appartement, on en parlait.
Parce qu'effectivement, c'est des appartements autonomes, hein, où les résidents peuvent vivre de façon autonome. Donc, du T1 au T3, une salle de restauration, un salon pour les activités, un salon de coiffure, pas mal d'espaces communs pour les résidents à venir.
Et justement, dans ces espaces communs, il y a une salle à manger.
Oui.
Et est-ce que c'est ouvert aux personnes de l'extérieur qui ne sont pas résidentes, mais qui se sentent seules pour déjeuner à midi et qui voudraient venir?
Oui, tout à fait. On le voit sur d'autres résidences, des personnes qui viennent manger le midi avec nos résidents. Parfois des personnes âgées qui n'ont plus envie de se faire à manger tous les jours, qui veulent des repas équilibrés. Bon, mais viennent manger chez nous le midi. Parfois restent pour les activités. Mais ça peut être aussi les familles qui peuvent manger avec
les résidents. En fait, c'est un lieu ouvert.
Oui, c'est ouvert.
C'est un lieu ouvert où c'est comme un immeuble où habiteraient des gens. Et,
tout à fait.
Les gens peuvent venir les visiter, manger avec eux, faire des activités, sortir. Absolument. C'est pas un cadre comme une maison de retraite.
Non, c'est pas clos.
C'est vraiment très ouvert.
Anne Deslois.
Oui, alors si on dit résidence avec des appartements, ce sont tous des appartements à louer. Les résidents ne deviennent pas propriétaires. Et donc, si on peut venir en couple, c'est simplement pour des personnes seules. Parce que vous parlez de T3, est-ce qu'il y a suffisamment de place pour un couple quand on commence
Bien sûr, les appartements sont conçus pour des personnes seules ou en couple, selon la typologie du logement. On a des personnes en couple qui sont dans des T2 aussi, à savoir aussi qu'on accepte les animaux. Ça faisait partie d'une question aussi qui m'avait été posée par Delphine lors de la venue. Donc c'est vraiment un lieu de vie pour des personnes seules ou en couple. Et le temps ne s'arrête pas lorsqu'on rentre en résidence service senior. Voilà.
Donc, les animaux domestiques, chats, chiens, sont acceptés.
Tout à fait.
Il y a un endroit spécifique, des fois, pour qu'ils puissent aller faire leurs besoins? Comment ça se passe dans le périmètre de la résidence?
Alors, dans le jardin extérieur, effectivement, il y aura un coin pour les animaux. Mais après, les résidents sortent souvent avec aussi oui. pour aller se promener. Ils ne restent pas forcément dans le parc de la résidence.
Vous m'avez repris que tout à l'heure, j'ai dit le nombre de chambres et d'appartements. C'est vrai que je crois que c'est même très, très important de m'avoir repris sur oui. ce point-là. Parce que je crois qu'au cœur du projet demeure l'autonomie des personnes. Qu'est-ce que ça signifie d'être, de vieillir en autonomie au sein de résidences comme celle de Stella?
Ben, c'est que les résidents peuvent garder la possibilité de rester autonome encore, de se faire à manger s'ils le souhaitent, de sortir, de rentrer quand ils veulent, de recevoir du monde, de continuer les activités comme ils auraient à la maison finalement.
Et alors pourquoi finalement partir de la maison pour rejoindre une résidence? Alors j'imagine que les résidences sont multiples et personnelles, etc. Mais qu'est-ce qu'on y trouve et,
Il y a beaucoup de raisons. Là, la sécurité, c'est déjà une des premières raisons.
C'est-à-dire ?
Des gens qui sont isolés, par exemple, à la campagne, mm-hmm. qui souhaitent nous rejoindre pour avoir du lien social, mais aussi une sécurité avec une présence 24 heures sur 24.
C'est-à-dire qu'il y a une assistance à l'intérieur des chambres. Comment ça se passe, en fait, cette sécurité?
Si
comment
vous voulez, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un logement classique? Entre guillemets, comme vous l'avez dit, c'est pour plusieurs raisons qui sont propres, en fait. Ça peut être de la sécurité, un lien social, un besoin quelconque aussi de profiter aussi des animations et tout ce qu'on met au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a de plus en termes de sécurité? C'est on a un système de téléassistance dans chaque appartement qui est propre à chaque résidente ou résident, avec un bracelet ou un collier. Qui est détecteur de chute, perte de verticalité, donc qui appelle dans un premier temps les personnels qui est sur place, comme on assure une présence 24-24, 7 jours sur 7, et un contre-appel avec une plateforme de téléassistance. Donc la personne seule dans son appartement qui chute, on est informé, on peut lui porter secours, on peut être là pour elle et éviter que lorsqu'on est à domicile et qu'on est seul et quand on chute, ça peut s'aggraver, il peut y avoir des grandes difficultés. Donc, ce système de téléassistance-là, aujourd'hui, nous permet de maintenir en sécurité nos résidentes et résidents.
Quand vous parlez de personnes qui sont des salariés qui sont permanents 24 heures sur 24, comment est composée cette équipe qui sont-ils? Ça, c'est pour vous, Ludovic Pell.
Merci, Charles. Donc, les équipes, aujourd'hui, ce sont des employés polyvalents.
Oui.
Qui peuvent être amenés à faire des ménages pour les appartements, de la blanchisserie, du service au restaurant, mais aussi un petit peu d'animation pour être auprès des résidents. Et on a des équipes qui sont là la nuit, effectivement, à l'astreinte, s'il y a besoin. Ensuite, il y a le directeur et l'assistante de direction. Voilà. Et toute l'équipe aujourd'hui, qui est arrivée cette semaine, sont tous des gens de Lourdes.
Ça a généré combien d'emplois, justement ?
Pour l'instant, on a 6 personnes pour commencer l'activité. Avec la montée en charge après de l'établissement, on reprendra des personnes en plus. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on a 6 personnes.
Et au niveau des appartements, à l'intérieur, ce sont des logements qui sont meublés où les gens peuvent les arranger à leur goût, selon ce qu'ils souhaitent.
Ils sont meublés, effectivement, mais les résidents ont la possibilité de nous faire retirer des meubles pour mettre les leurs à la place, hein, en totalité ou partiellement. Ça c'est
important quand même, les meubles, hein, quand finalement on déménage, on a envie de retrouver un petit peu la maison.
Hein. De se sentir chez soi.
Mais c'est ça, c'est ce qui
la
facilite.
La déco, c'est pour eux, la meublé, la décoration, les choses comme
Comment
ça.
Alors, on le comprend, hein, c'est une résidence qui vient d'ouvrir, qui est naissante, il y a de la place libre, on imagine encore dans la résidence. Comment on arrive finalement à... C'est du cas par cas en fait, chaque accueil est... Comment on arrive à composer en fonction des personnes?
C'est du cas par cas bien sûr, parce que chaque projet de vie est différent et c'est notre travail nous au quotidien de nous adapter en fonction de la demande. Donc ça peut être une personne qui a besoin d'avoir un appartement vide lorsqu'elle arrive parce qu'elle a cette volonté d'amener la totalité de ses meubles, et au contraire, une personne qui n'a pas forcément d'attache avec ses propres meubles et qui souhaite avoir un appartement meublé directement pour pas avoir à s'embêter pour le déménagement, etc. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est une flexibilité dans notre offre. Avec une personne qui souhaite garder seulement une chaise, on lui laisse la chaise si elle le souhaite, ou une personne qui a l'appartement meublé, et il n'y a aucune incidence sur le prix de ce côté-là aussi.
Et au niveau des services, vous avez aussi cette flexibilité de, par exemple, vous parliez tout à l'heure du ménage dans les chambres ou pas.
Oui, c'est ça.
Chacun peut se le faire soi-même, oui, ou demander à ce que ce soit fait.
C'est un panel de services. Alors, on a un loyer, enfin une redevance de base qui est un tronc commun pour l'ensemble de nos résidentes et résidents. Et après, on a des services à la carte. En fait, ça va être du ménage, de la restauration, ça va être la blanchisserie et toutes ces choses-là qui ne sont pas obligatoires. C'est seulement quand il y a un besoin, quand il y a une volonté de la part de la personne qui souhaite avoir un passage pour le ménage, un passage pour l'entretien de son linge. Et c'est vraiment des choses qu'on propose et qu'on n'impose pas. Voilà.
Ça veut dire que dans l'appartement tel qu'il est proposé, il y a une cuisine avec le matériel qu'il faut, il y a une machine à laver le linge, tout ça c'est compris. Alors, l'offre de base.
Si je dois simplement résumer ce qui est compris dans la partie notamment cuisine, on met à disposition une plaque vitrocéramique, la hotte, le petit frigo, un micro-ondes. Et après, on a l'emplacement pour la machine à laver, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent utiliser cet emplacement-là pour un lave-vaisselle. Mais tous les appartements du T1 au T3 sont équipés d'une cuisine, sont dotés d'une cuisine avec des rangements, avec de la vaisselle, ce qui fait partie de la dotation mobilière finalement dans un contrat de location meublée.
Voilà. On est proche aussi de l'hôtel, quelque part, parce qu'on pourrait presque avoir une vie de tout service compris. Ça se module en fonction des besoins, des envies, des capacités financières.
Capacités financières, des besoins à l'instant T. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on a des personnes qui vont rentrer à un âge et il y a une envie, une dépendance certaine ou pas, ou une indépendance, on les suit tout au long de leur vie au sein de notre résidence. Et au départ, pas besoin du ménage. Et au fur et à mesure du temps, on a des besoins. Donc, ce qui permet de suivre nos résidentes et résidents selon leur évolution et de leur proposer des services qui leur permettent de conserver leur autonomie et conserver leur appartement au sein de notre résidence. Donc, une personne peut rentrer en ayant besoin de strictement rien et au fur et à mesure du temps souhaite souscrire l'entièreté de nos services. Donc, c'est vraiment une offre qui est, comme on le disait, très flexible.
On s'adapte au fur et à mesure. En fait. C'est que là, il parlait des repas ou des ménages, des personnes qui rentrent, qui sont vraiment très autonomes et attachées à se faire à manger. Au fur et à mesure du temps, peuvent commencer par ajouter le repas, admettons, tous les vendredis quand il y a le repas festif, et après rajouter tous les midis. Après, on peut rajouter les soirs, les petits déjeuners. Voilà, c'est vraiment en fonction de chacun.
Un point qui est peut-être important, c'est déjà l'âge. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour louer chez vous?
Est-ce qu'on ne va pas fâcher des personnes?
En fait, il y a des moyennes.
À partir de quel âge, déjà?
60 ans.
Si on prend la résidence, par exemple, Albi tient un exemple, la moyenne est sur 86 ans.
Ah oui.
Et on va de 60 à 102.
Et justement, vous parliez de moyens financiers tout à l'heure, les loyers, c'est un loyer classique qui ouvre des droits à des aides comme loyer.
C'est ça, tout à fait. On a une redevance qu'on appelle redevance, qu'on différencie bien du loyer parce que la redevance qu'on propose inclut différents services. Bon, ça, je pense qu'on y viendra peut-être après, mais ça ouvre des droits aux appels, notamment auprès de la CAF, pour pouvoir bénéficier d'une aide supplémentaire. Et cette aide-là, ce qu'on voit surtout dans nos résidences, permet à des résidentes et résidents de se servir de cette aide-là pour souscrire des services, par exemple.
D'accord.
Voilà.
À Lourdes, merci beaucoup. Vous reviendrez nous donner des nouvelles. À très bientôt, et nous, on se retrouve une prochaine fois.
Oui, avec plaisir.
Allez, à bientôt. Merci à tous.
Merci.
Voilà, belle résidence donc qui va inaugurer ses portes et qui va ouvrir d'ici quelques jours. C'est la résidence Stella, les Roses de Massabielle, donc en face de la gare de Lourdes. C'était un extrait de l'émission L'heure de pointe, une émission de Radio Présence. Merci à David Torchala et puis bien sûr à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Nous allons tout de suite partir pour le Gers et on va parler du 4L Trophy.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Léa Delvedove et Audrey Laborde sont toutes les deux gersoises et elles représenteront leur département au prochain 4L Trophy. Samedi dernier, elles étaient présentes au marché d'Auch pour présenter leur projet malgré le froid et la pluie. Une manière de s'entraîner aux futures conditions météorologiques. Elles partiront le 18 février de Biarritz et traverseront l'Espagne via Algésira et participeront à cette course sportive et solidaire qui aura lieu au Maroc jusqu'au 1er mars. On les écoute parler de la préparation et du périple qui les attend. Elles sont toutes les deux au micro de Pauline Cazier.
Oui, bonjour, je suis Léa Delvedov
et moi c'est Audrey Laborde.
Voilà, alors je vous retrouve ce matin au marché d'Auch et vous êtes devant un stand pour parler d'une course que vous allez faire, le 4L Trophy. Alors, qui veut parler la première ?
Alors voilà, le 4L Trophy, c'est une course qui se déroule de Biarritz où on traverse l'Espagne et le Maroc pour arriver jusqu'à Marrakech. Le but étant de ramener des fournitures scolaires et du matériel sportif aux enfants du Maroc. Et donc c'est en collaboration avec une association qui est là-bas qui s'appelle Enfants du Désert.
Et Enfants du Désert, donc quel est le but de cette association, l'objectif ?
C'est vraiment d'aider dans l'éducation des jeunes enfants les plus démunis du Maroc. Donc voilà, elle fournit du matériel scolaire, sportif, elle aide dans la construction d'écoles, de salles de classe, pour vraiment aider voilà, à l'éducation de ces jeunes enfants.
D'accord. Et alors je vous passe la parole, Audrey. Donc vous allez partir toutes les deux, à quelle date ?
Alors nous partons exactement du 18 février, donc ça va être tout ce qui va être vérification technique à Biarritz et départ du coup officiel après pour rejoindre l'Espagne le 19 février et tout ça donc jusqu'au 1er mars avec l'arrivée à Marrakech.
Donc en 4L, alors c'est une grosse préparation, comment vous vous êtes entraînée ?
Alors pour l'instant, on ne s'est pas encore trop entraîné. On a commencé surtout à rénover une 4L parce que la nôtre ne roulait pas. Elle était en très mauvais état. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Donc on l'a conduit un petit peu pour la première fois sur route pour l'instant, histoire de s'habituer aux vieilles voitures finalement. Et donc là après, elle est un peu repartie en réparation. Donc fait une pause dans l'entraînement, on va dire.
Quand on fait ce défi sportif, il faut évidemment avoir quelques notions de mécanique. Alors expliquez-nous ce que vous avez appris. Voilà.
Du coup, alors on a appris vraiment les bases. Moi, mon père nous a aidé beaucoup dans la partie mécanique, donc il nous a un peu montré tout ça. Après, on a vraiment les notions de base. Changer une roue, voir le filtre à air parce qu'il faudra qu'on le souffle régulièrement à cause des poussières du désert. Tout ce qui va être un peu identifier les différents éléments et essayer de voir, de pouvoir identifier des fois ce qui cloche ou pas.
Voilà. Donc vous partez de Biarritz et là vous traversez toute l'Espagne jusqu'à Marrakech. Et là, si vous arrive quelque chose, c'est vous qui vous débrouillez.
Alors, le trajet de Biarritz jusqu'à Algeciras, donc où on prend le bateau pour rejoindre Tanger. Là, oui, on est en totale autonomie. Donc, s'il arrive une petite galère avec la 4L et tout, donc là, c'est à nous de faire les réparations, tout ça. Après, par contre, dès qu'on arrive au Maroc, on est pris en charge par l'organisation. Et donc, il y a toujours une assistance mécanique qui va nous suivre, notamment donc, dans le désert et jusqu'à l'arrivée.
Alors, le 4L Trophy, cette année, combien de participants ? Parce que c'est mixte, hein, vous m'avez dit.
Du coup, chaque année, il y a en moyenne 1200 voitures. Donc ça veut dire on est deux personnes par voiture. Donc, ça veut dire à peu près 2400 personnes qui participent chaque année. Ouais.
Et chaque année, c'est le même soutien à la même association ou il y a plusieurs associations qui sont soutenues ?
Alors, essentiellement, c'est Enfants du Désert et c'est l'association historique qui est en collaboration avec le 4L Trophy. Mais là, depuis quelques années, il y a des associations qui se sont rajoutées, comme la Surf Foundation, la Croix-Rouge. On amène aussi des denrées alimentaires à la Croix-Rouge qu'on laisse à Biarritz, pour la Croix-Rouge française. Et il y a d'autres associations.
Un peu plus à visée environnementale pour le Maroc.
Donc là, quel matériel vous allez emmener dans la 4L ? Parce que l'espace n'est pas non plus très, très, très important.
Donc du coup, on enlève la banquette arrière pour nous laisser plus de place. Donc on aura tout le coffre et la partie passager arrière. Donc on amène tout le matériel de camping, des tentes, les duvets, les matelas gonflables, etc. Tous nos repas du midi. Parce que là on n'aura pas l'organisation pour nous fournir tout ça et aussi on amène tous les équipements
un peu obligatoires qui nous sont stipulés par l'organisation type par exemple des jerrycans d'essence, des instincteurs, donc tout cela un peu et des pièces de rechange aussi mécaniques.
même si vous avez l'organisation arrivée là-bas qui sera avec vous, ici dans le Gers, qui c'est qui vous soutient pour organiser tout ça?
Alors, on a des sponsors, du coup, qui sont des entreprises qu'on a été voir et qui nous soutiennent. En échange de leurs dons, que ce soit matériel ou financier, on met leur logo sur notre 4L et on poste également sur les réseaux sociaux un petit post un peu promotionnel pour expliquer ce que fait leur entreprise et qui nous ont aidés. Voilà.
Il y a aussi, de mon côté, il y avait pas mal ma famille aussi qui a participé, des amis et également donc des collègues de travail aussi.
Parce que vous travaillez toutes les deux, donc là vous faites ça sur vos congés?
Oui, c'est ça, c'est sur notre temps libre. Voilà, on cherche des financements autres et bien sûr il y a tous nos proches qui nous ont aidés et qui ont été d'une grande aide dans ce financement, dans ce projet.
Donc l'objectif de ça déjà, c'est, il faut dire que vous vous connaissez depuis le collège, il y a une amitié qui existe entre vous, donc vous connaissez très bien, c'est vrai que partir comme ça plusieurs jours et dans des conditions qui ne sont pas toujours simples, c'est bien d'avoir un soutien de l'une et de l'autre.
Bon, je pense que ça sera toujours peut-être facile avec la fatigue et tout qui va s'accumuler et tout, mais non, mais on sait très bien qu'on s'entend bien et il n'y a aucun risque, on arrivera à mi-temps, on ressortira à mi-temps de cette expérience et c'est le principal.
Alors, une expérience très enrichissante puisque c'est un but évidemment solidaire, sportif. Alors là, vous êtes vraiment motivé à fond, vous savez que vous allez rencontrer peut-être l'association.
Oui, alors il y a une journée, alors tous les équipages ne peuvent pas le faire parce qu'on est trop nombreux, mais il y a une journée avec l'asso qui permet de rencontrer les enfants, de passer un moment avec eux, de jouer, etc. Mais là, on ne sait pas encore les sélectionner. Voilà, mais...
Les fournitures sont données directement à l'association et non pas nous-mêmes aux enfants. C'est l'association d'accord. qui fait l'intermédiaire. D'accord.
Alors pour vous suivre pendant ce périple, comment on peut vous suivre?
Donc on a créé une page Facebook et une page Instagram avec le nom de notre équipage qui s'appelle Fast and Gersius. Donc un jeu de mots entre Fast and Furious et le Gers, vu qu'on est originaire toutes les deux du Gers.
Vous cherchez toujours des sponsors? Parce que l'aspect financier est important. Vous arriverez à peu près à boucler votre budget?
Alors, l'aspect financier est très important parce que entre tout ce qui est réparation de 4L, inscription, tous les frais annexes, nous on avait budgétisé à peu près 11 000 euros. Donc on va arriver à boucler, pas tout à fait aux 11 000 je pense, mais on devrait être pas trop loin.
C'est 1 euro. Pareil, c'est tout pareil.
Voilà, on est sur le marché. En fait, vous vendez des stylos pour 1 euro pour participer au financement de ce projet. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite bon courage et bravo pour ce projet.
Merci beaucoup.
Voilà à l'instant une belle, belle aventure qui attend Léa Del Vedov et Audrey Laborde. Toutes les deux, donc, deux Gersoises qui vont représenter leur département au 4L Trophy. Un grand merci à Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers, pour cette interview.
Radio Présence à Pau 96.
Allez, on continue avec l'information et on retrouve Lou Denville de l'école de journalisme de Blagnac qui nous présente cette édition. Bonjour Lou.
Attention sur la route, de nouvelles manifestations agricoles ont débuté cette nuit dans la périphérie de Toulouse. Les agriculteurs haut-garonnais ont investi le port de l'embouchure hier soir. Ce matin, l'axe Muret-Toulouse sur l'A64 est bloqué. De même, il est impossible de rejoindre le périphérique. Privilégiez la sortie 38 Le Chapitre comme alternative et gardez un œil sur votre GPS pour les prochaines informations sur les blocages. Quant au conseil départemental du Gers, il appelle lui à la responsabilité collective face aux atteintes portées aux infrastructures publiques. À la suite des actions menées ces dernières semaines sur le territoire par des agriculteurs, la collectivité a engagé des travaux sur le réseau routier. Une intervention au niveau du tronçon de la route départementale entre Auch et Aubier ainsi qu'à Pujaudran s'est terminée en début de semaine. Le président du conseil départemental, Philippe Dupuy, rappelle que de nombreux points stratégiques comme les ronds-points de Saint-Cric et de la Hurée à Auch font partie des principaux secteurs concernés par ces réparations. Du nouveau dans l'appel au boycott du Salon de l'Agriculture 2026 par la Confédération Paysanne d'Ariège. Le syndicat agricole dénonce la stratégie sanitaire de l'État face à la dermatose nodulaire et requiert le soutien des représentants du conseil départemental et de la chambre d'agriculture. Plutôt que de monter à Paris en février, de nombreux agriculteurs du département proposent d'accueillir les citoyens dans leurs fermes pour découvrir les exploitations et les produits locaux. L'équipe de neurologie du professeur Xavier Erignac va proposer des consultations au centre hospitalier de Millau à partir de la fin du mois. L'agence régionale de santé d'Occitanie renforce donc l'offre de soins pour la prise en charge des patients du sud de l'Aveyron. Dès fin janvier, 5 praticiens du CHU de Montpellier interviendront 2 fois par semaine sur des pathologies neurologiques comme les maladies cardiovasculaires, céphalées, sclérose en plaques ou encore troubles cognitifs. Pour prendre rendez-vous avec le service des consultations externes du centre hospitalier de Millau, vous devrez vous munir d'un courrier d'adressage détaillé de votre médecin traitant ou du praticien demandeur. À Montauban, le stade du Solou fait peau neuve. La rénovation complète du revêtement synthétique est terminée. Ces travaux de grande ampleur d'un coût de 1,2 million d'euros ont été rendus possibles par la municipalité, le Grand Montauban, l'Agence nationale du sport, l'État et la Fédération française de football. La mairie a porté une attention particulière à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette démarche est aussi éco-responsable. Le stade est désormais doté d'un système de rétention des eaux pluviales. Ce chantier devrait permettre au stade de Salou, d'obtenir l'homologation officielle de niveau 4 par la Fédération. Celle-ci devrait bientôt rendre sa décision.
Et voilà, le journal nous était présenté aujourd'hui par Lou Denneville de l'ISCPA de Toulouse, l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Voilà, merci à ces jeunes étudiants et qui nous font donc le journal tous les jours, le journal régional. On va parler d'un sujet qui peut être étonnant. Et si Jésus avait eu un avocat, c'est le sujet aujourd'hui de Un jour, un livre, un auteur avec Philippe Noli et Diego Rabal.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Ils sont là, bon pied, bon œil, pour une nouvelle année de chronique littéraire. Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Philippe Noni et bonjour Diego Arabal.
Bonjour messieurs.
Bonjour les deux Philippe, comme d'habitude, à chacun d'entre vous.
Alors, est-ce que les bonnes résolutions pour cette année, Philippe?
Oui, mais déjà, bonne année à la santé surtout. Je souhaite que ça à tout le monde. Quand on a la santé, ça permet de faire tous les projets, de réaliser tous les projets qu'on a envie de vivre.
Ouais. Voilà, bonne année à tout le monde. Et puis une bonne résolution que j'ai prise, c'est de ne pas prendre de bonnes résolutions. Bon, au moins, je risque pas de les rater après.
Allez. Alors aujourd'hui, on va parler. Vous avez un sujet qui peut être détonnant, surtout à Radio Présence.
Alors c'est un sujet qui pourrait être détonnant, tout simplement parce que lorsqu'un avocat inscrit au barreau de Paris depuis 25 ans écrit un roman et choisit comme personnage principal Jésus de Nazareth, d'aucuns pourraient s'en étonner. Ils auraient tort. Le parti pris de cet écrivain avocat ou de cet avocat écrivain est d'interroger le procès de Jésus. Pas d'avocat, pas de plaidoirie en bonne et due forme. Pas de procès équitable sans présence d'une défense organisée et préparée. La justice mérite plus qu'on s'en lave les mains, et c'est justement l'objet de ce roman, L'avocat de Jésus, publié chez Pierre Tecky, éditeur. Bonjour Laurent Delvolvé.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes l'auteur donc de ce roman L'avocat de Jésus, publié chez Pierre Tecky, éditeur, roman tout aussi étonnant que passionnant. Je vais lire la quatrième de couverture de votre roman et on en parle ensemble en suivant Laurent Delvolvé. Le procès de Jésus est certainement l'un des plus connus au monde, mais personne ne s'étonne qu'il n'ait pas eu d'avocat. Laurent Delvolvé, romancier et surtout avocat lui-même, a décidé de lui en donner un. Avec finesse et brio, il nous entraîne à la suite de cet homme qu'il imagine juif et citoyen romain, comme Paul de Tarse, ayant fait de longues études de droit, comme Nicodème et comme Cicéron, avocat et rhéteur devant les tribunaux romains. En suivant cet homme, on suit le Christ et sa passion. En écoutant sa plaidoirie, on se laisse emporter par le message de Jésus et on accepte avec humilité sa prochaine crucifixion. Laurent Delvolvé, vous êtes avocat au barreau de Paris depuis déjà 25 ans. Comment vous est venue cette idée d'écrire ce roman inspirant, cette uchronie ?
Alors oui, cette idée m'est venue tout à fait naturellement. C'est-à-dire que, comme tout avocat, on s'intéresse aux grands procès de l'histoire. Et parmi les grands procès de l'histoire, il y en a un qui est quand même central dans notre civilisation. C'est le procès de Jésus de Nazareth, qui a réellement eu lieu. Et par conséquent, comme tout procès qui s'est tenu, eh bien moi je me suis intéressé essentiellement à la question de savoir si les règles de procédure, les règles du droit applicables à l'époque avaient été ou non respectées. Je ne suis pas le premier à avoir fait cet exercice. Hein. De nombreux avocats ont déjà travaillé le sujet, écrit des livres à cette occasion. Et puis, beaucoup d'historiens, évidemment, et de théologiens se sont penchés sur le sujet. Donc moi, je ne suis intervenu que pour me dire, mais si Jésus avait eu un avocat, donc on parlait du chronique, c'est bien de ça dont on parle, hein, que se serait-il passé? Et évidemment, c'est un roman, hein, donc tout cela est une invention, mais ça m'a semblé intéressant de me dire, plaçons un personnage dans cette histoire-là pour voir comment ce personnage aurait pu intervenir ou ne pas intervenir. C'est tout l'objet du roman lui-même. Hein.
Alors, l'intérêt, moi, je trouve, de votre roman, c'est que vous nous entraînez à votre suite pour comprendre les enjeux, mais aussi les limites du métier d'avocat. C'est-à-dire qu'il y a une véritable porosité entre l'époque actuelle, je trouve, et l'époque, effectivement, où s'est déroulé le procès de Jésus. Et vous rappelez un peu les enjeux du métier d'avocat, et j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Je vais lire un extrait en page 12. Je trouve qu'il fait vraiment réfléchir sur le métier d'avocat. À ce propos, l'avocat se perdrait en conjecture s'il cherchait à jauger l'effet de ses plaidoiries sur le sens des décisions rendues. Nous ne sommes pas dans la tête des juges, il y a tellement de paramètres à prendre en considération. En réalité, l'avocat doit bien se garder de chercher à savoir si sa défense a eu quelque efficacité ou utilité que ce soit. Sinon, voilà bien longtemps qu'il aurait arrêté ce métier si particulier. Mais dans le même temps, l'avocat doit avoir foi dans la force de conviction de ses arguments, de ses interventions et de ses plaidoiries. S'il n'en est plus qu'un à croire à l'impossible, ce doit être lui, être capable, toujours, d'aller trop loin afin d'oser un argument supplémentaire, là où plus personne n'y croit, afin d'oser une dernière parole, là où plus personne n'a la force d'ouvrir la bouche, afin de défendre et de défendre encore, quoi qu'il en coûte de fatigue et de renoncement. Quand j'ai lu ce passage en page 12, j'ai aussitôt vu le film avec Rému, que vous avez sans doute dû voir, Laurent Delvolvé, L'inconnu dans la maison, où Rému joue le rôle d'un avocat qui doit défendre son futur gendre par rapport à un assassinat qui a eu lieu dans sa propre maison. Et je me suis posé une question. C'est notamment avec cette phrase que vous avez en page 16, cette question qui conditionne toute l'histoire. Vous écrivez « Condamne-t-on à mort quelqu'un pour avoir prêché de s'aimer les uns les autres ?» Vous ne trouvez pas que votre chronique, elle est étonnamment moderne dans le monde qui est le nôtre ?
Oui, alors, ce qui est moderne, merci d'avoir cité ces passages-là, ce qui est moderne, en réalité, c'est l'œuvre de justice, la recherche de la vérité et la question de savoir comment nous, les hommes, nous participons à cette recherche de la vérité. C'est-à-dire que les avocats, en tout temps, sont ceux qui aident à la recherche de la vérité. On dit qu'ils plaident et qu'ils sont des menteurs, certainement pas. Les avocats sont là pour faire émerger et être, on dit, auxiliaires de justice, oui, participer à cela. Et donc, un procès d'il y a 2000 ans et un procès d'aujourd'hui, finalement, c'est toujours, on retrouve toujours les mêmes ressorts, à savoir que des hommes et des femmes font part de convictions et des hommes et des femmes vont juger après avoir entendu ce débat contradictoire et le fait qu'un certain nombre de personnes se soient élevées pour faire état de la vérité, ou de ce qu'ils considèrent être la vérité. Et donc oui, il y a une actualité totale de tout procès, et en particulier du procès de Jésus. On peut vraiment se dire que la démarche de recherche de justice et de vérité est sensiblement la même il y a 2000 ans qu'aujourd'hui.
Parce que c'est vrai que cette question que vous posez, moi, je l'ai relu plusieurs fois, hein, je vous avoue, ça m'a interpellé. Condamne-t-on à mort quelqu'un pour avoir prêché de s'aimer les uns les autres. Ça fait 2000 ans que cette idée, effectivement, elle est inscrite dans la Bible, qu'elle continue, hein, à infuser dans le monde qui est le nôtre. Alors, avec toutes les limites, effectivement, que l'on peut voir lorsqu'on regarde l'actualité internationale, hein, et ce, quelle que soit l'époque. Mais c'est vrai que cette question, condamne-t-on à mort quelqu'un pour avoir prêché de s'aimer les uns les autres? Je m'étais jamais posé cette question de cette manière-là avant de lire effectivement votre livre. Et j'avoue que cette question, elle continue à me, quelque part, à me troubler. Parce qu'on se rend compte, effectivement, en lisant votre livre, que c'est ça, en fait, que les Roumains, effectivement, cherchent à condamner. On condamne quelqu'un pour prêcher de s'aimer les uns les autres. Et cette idée, je trouve qu'elle est étonnamment moderne dans le monde qui est le nôtre. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu aussi faire passer au lecteur? Lui demander, lui dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce message, quelqu'un de prêcher, de s'aimer les uns les autres, est-ce que finalement, ce n'est pas un message qui continue à être étonnamment moderne?
Oui, c'est merci de souligner ça. C'est extrêmement moderne et extrêmement révolutionnaire, en somme. C'est-à-dire que... Moi, ce qui m'est apparu en travaillant le sujet, c'est que Jésus de Nazareth a été condamné pour blasphème, et uniquement pour les paroles qu'il a proférées. C'est uniquement ce qu'il a dit qui a fait l'objet d'une condamnation. Vous avez parlé des Romains, il faut parler aussi de certains représentants du peuple juif dans ces condamnations. Il y a plusieurs procès de Jésus en réalité, hein, et quand on dit le peuple juif, en réalité, c'est la représentation de tous les hommes qui ont n'ont pas accepté de voir ce message d'amour dans la parole de Jésus, et ce qui ça les bouscule à tel point qu'ils veulent le mettre à mort. Et quand vous parlez d'actualité, mais oui, il y a une actualité évidente, c'est que dans tous nos procès, aujourd'hui encore, il y en a un certain nombre où c'est uniquement des paroles qui sont proférées qui font l'objet de condamnation. Alors évidemment, quand celles-ci sont contraires à la loi, c'est bien normal, mais dans certains cas, des personnes sont poursuivies à tort, et là, il est nécessaire que des avocats se lèvent pour défendre, et défendre encore, il y a une actualité certaine de ce message. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce que j'ai vécu en écrivant ce livre, c'est que j'avais pas du tout l'idée de faire ce parallèle entre mon métier d'aujourd'hui et qui est partagé par un grand nombre de personnes, hein, ce métier d'avocat du 21e siècle, et le métier d'avocat, ou en tout cas le fait de suivre un procès en l'an 33. Et il y a eu des ponts entre les deux, montrant, mais malgré moi, montrant l'actualité, effectivement, du message défendu par Jésus tout au long de sa vie publique, et que n'a pas accepté sa génération. On peut dire qu'il n'accepte pas encore beaucoup de monde de notre génération. Mmh. Et d'où cette actualité, et le fait de faire des ponts entre ces deux époques. Alors oui, vous parlez du chronique, on peut aussi se dire qu'il y a une actualité criante de la vie de Jésus aujourd'hui dans notre propre vie.
Alors, c'est vrai qu'après, vous le citiez tout à l'heure, ce qui est intéressant en lisant aussi votre roman, c'est qu'on se rend compte que le procès de Jésus n'est pas un procès unique, mais un procès à tiroir, en fait. Il y a le procès donc dans le tiroir des Romains, il y a le procès dans le tiroir, effectivement, des Juifs. On voit qu'il est jugé, effectivement, à plusieurs niveaux. Et je trouve que c'est très intéressant, cette revisite que vous faites, effectivement, non pas de ce procès, mais de ce procès à tiroir de Jésus, donc de tous ces procès. Moi, je me suis posé une question en lisant votre livre, c'est comment vous avez fait pour parvenir à rentrer dans la peau de cet avocat qui défend Jésus?
Alors ça, c'est tout le mystère de l'écriture. Et quand vous disiez je suis avocat et romancier, ou romancier et avocat, oui, dans le processus d'écriture, on est totalement pris par un sujet. Et en l'occurrence, là où ça a été assez facile pour moi, c'est que... le gardé à vue du 21e siècle, c'est le même gardé à vue du 1er siècle de notre ère. C'est-à-dire que le processus de mise en captivité d'une personne, n'a pas d'époque. Le fait d'être privé de sa liberté entraîne exactement les mêmes conséquences à toute époque de notre civilisation, c'est-à-dire que, étant privé de sa liberté de mouvement, d'aller et venir, on est privé aussi de sa liberté physique, et donc il ne reste plus que la liberté intérieure. Et ça, on le voit très bien dans les relations avec les personnes que l'on défend. le gardien à vue me dit, mais sortez-moi de là. La première chose que je vous demande, c'est de rendre ma liberté. Et donc, c'est un combat pour la liberté, ce procès de Jésus. Et Jésus lui-même est le premier à prêcher la liberté. Et vous parliez de l'amour, en fait, de la liberté de s'aimer les uns les autres. Et quand il est gardé à vue par dans les geôles romaines, il est, et j'en suis persuadé, en tant qu'homme, il n'a qu'une volonté, c'est de retrouver cette liberté. Et c'est pour ça que rentrer dans la peau d'un avocat, même en entrant droit, n'a pas été si difficile pour moi. Alors peut-être que voilà, ça peut faire l'objet de grandes critiques, hein, il n'y a aucun sujet. À partir du moment où on écrit, on accepte les critiques. Mais il me semblait que bien cet homme, Jésus Nazareth, en entrant droit, n'est pas si différent de l'homme que je rencontre lorsque je vais au parloir voir les différentes personnes qui ont été privées de liberté. Et ce passage-là, à chaque fois, me saisit. C'est-à-dire que je vois dans la personne privée de liberté, je vois le visage du Christ.
C'est un passage que vous écrivez avec une force énorme, ça, dans votre roman. Je dois vous avouer, moi, quand je lis un roman, il m'arrive de relire plusieurs fois des phrases, tellement ces phrases, je trouve qu'elles ont une force extrêmement... une portée extrêmement forte. Ça a été le cas effectivement de cette phrase quand vous rencontrez donc un prévenu et que vous voyez dans son regard quelque part ce qu'il attend de vous et effectivement cette remise en liberté. Et je trouve que cet aller-retour que vous faites entre l'époque actuelle, ce que vous faites dans votre métier aujourd'hui d'avocat depuis 25 ans, donc inscrit au barreau de Paris, et puis cette uchronie dans laquelle vous vous imaginez donc en avocat de Jésus, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent. Je vais lire un passage en page 18, effectivement, sur l'esprit qui est le vôtre au moment où vous allez rencontrer Jésus pour le défendre. Qui est cet homme qui, dans un instant, va s'asseoir en face de moi? De quoi est-il accusé? Qu'a-t-il vraiment fait? Quelle est sa vie? Que lui dire dans les quelques instants que nous avons ensemble? Comment rendre efficace cette défense pénale d'urgence? Je sais que ce type d'affaires ne traîne pas. Et la Pâque qui arrive. Ils ne vont tout de même pas expédier cela dans la journée. Il va falloir être synthétique, efficace, direct, aller droit au but l'un et l'autre. Chaque mot, chaque instant compte dans ce genre de situation. Le bruit de pas d'une escorte de gendarmes, un cliquetis de clés, la lourde porte de métal grise s'ouvre en grinçant. Un garde romain, au visage dur et fermé, tient d'une main féroce les liens qui entravent l'homme, dont j'aperçois immédiatement la grande silhouette dans sa tunique de lin blanc, apparaissant dans l'embrasure de la porte. C'est un Hébreu au visage régulier. Il fait environ 1m80, les cheveux noirs tombant sur les épaules, la raie au milieu, une barbe arrondie de taille moyenne. Je croise son regard. Il me sourit avec douceur malgré son visage tuméfié, des coups qui lui ont déjà été portés. Le garde lui défait ses liens et le fait asseoir avec brutalité sur le tabouret de bois qui fait face au mien, puis il se retire en me demandant de cogner à la porte quand j'en aurai fini avec lui. Voici l'homme. Vous auriez pu écrire Ecce Homo en latin. Voilà. Pouvez-vous bien concevoir cette rencontre parloir des avocats entre l'accusé, Jésus de Nazareth, et un modeste avocat de Jérusalem? Oui, sans doute, car pour moi, je vous dirais que cette rencontre est à l'image de toutes celles que j'ai déjà vécues dans ma carrière d'avocat. La première mise en présence avec celui qui est un accusé, mise en cause, gardé à vue, incarcéré, placé en détention provisoire, privé pour le moment de sa liberté d'aller et venir. Le premier face-à-face avec un prisonnier est toujours une expérience de vie qui vous marque durablement comme avocat, quels que soient les liens que vous aviez ou non précédemment avec lui. Ces premiers face-à-face ont de multiples points communs, même s'ils ne sont jamais les mêmes, jamais banal ou ordinaire, et auquel la routine ne parvient jamais à retirer ce caractère unique d'une rencontre entre deux humanités que tout sépare et que tout rapproche. J'en ai la sœur Richard de Poul, vous voyez, en lisant ce passage, Laurent Delvolvé, parce que vous mettez dans vos mots une telle force que vous arrivez à passer à travers le livre, et j'avais l'impression de vous avoir en face de moi. Voir cet avocat, Laurent Delvolvé, pourtant je ne connais pas votre visage, qui me parlait. Vous avez eu conscience de vouloir faire ça au moment où vous avez écrit, que quelque part ce ne soit pas que des mots, mais qu'on vous entende déclamer comme si vous étiez à la barre?
Oui, merci, c'est très gentil. En fait, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est du vécu. Et quand vous relisez ce passage, je revois les visages des personnes que j'ai pu assister au moment où elles étaient effectivement placées en garde à vue. C'est le moment le plus saisissant, où la personne ne s'attend absolument pas à être embarquée par les gendarmes ou la police, et retrouve, est complètement nue en fait, retrouve son humanité totalement désarmé. Et quand vous relisez ce passage, vous dites, mais en fait, tout cela, je ne l'ai pas inventé. Ce sont des moments de vie et qui nous marquent, et qui marquent effectivement durablement. Je peux vous citer toutes les personnes que j'ai assistées dans ces conditions. Elles sont désarmantes de vulnérabilité. Et c'est là où l'avocat a un rôle important. C'est d'abord de ne pas profiter de cette faiblesse, mais au contraire, de s'appuyer sur cette faiblesse pour faire émerger une défense la plus efficace possible, mais tenant compte aussi de ce lien que l'on crée en un instant avec cette personne. Et sans trahir de secret, ces liens, eux-mêmes, perdurent. C'est-à-dire que les personnes qu'on assiste, très fréquemment, elles nous sont effectivement reconnaissantes, pas forcément de la défense qu'on a pu mettre en œuvre, mais de ce lien d'humanité que l'on a tissé à un moment où elles étaient les plus fragiles.
Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'avais pas en tête. Moi, j'ai jamais été assisté d'un avocat, donc c'est vrai que j'ai jamais eu cette rencontre. On n'avait jamais, depuis 13 ans maintenant qu'on fait cette émission, donc interviewé effectivement un avocat ayant écrit un livre comme vous l'avez écrit, avec cette pertinence, avec cette justesse. Alors, on attribue très souvent des policiers qui sont venus, qui sont interviewés, qui ont écrit des polars. Ça, on en a eu, mais on n'a jamais eu d'avocat. Vous êtes le premier, Laurent Delvolvé.
Bon, ouais. Très honoré.
Vous ouvrez le bord.
Voilà, mais bon, après, les avocats ont des facilités, ils parlent bien, ils parlent longuement, et puis il y a aussi une tradition, je le souligne, d'avocats écrivains. On peut regarder tous ceux qui m'ont précédé avec des ouvrages très intéressants. L'avocat, lui, il va puiser dans sa vie de tous les jours, et comme on voit des histoires qui ont toutes un intérêt, c'est bien de les coucher sur le papier. Mais là, effectivement, il y a eu ce lien particulier avec l'histoire de Jésus qui m'a touché, tout en me faisant dire, mais on n'est pas si loin. Ça a beau avoir eu lieu il y a 2000 ans, en réalité, ce que Jésus a vécu, beaucoup de personnes le vivent dans leur propre procès. On peut, chaque personne qui est poursuivie, mais quel que soit le domaine d'ailleurs, chaque personne qui a affaire à la justice peut s'appuyer sur Jésus pour affronter le procès, qu'il soit d'ailleurs plaignant ou poursuivi.
Et c'est là effectivement où je vais lire un dernier passage là en page 32 avant qu'on arrive là après au bout effectivement de cette émission littéraire. C'est en page 32, où vous vous adressez donc à Jésus, et c'est un passage également que j'ai trouvé extrêmement émouvant. Rabbi, puisque c'est ainsi que l'on vous nomme à Jérusalem et aux alentours. J'ai bien noté votre demande de ne pas être assisté d'un avocat pour vous défendre dans les procédures qui vont bientôt se poursuivre. Je respecte de votre souhait, mais avant de quitter ce parloir et de vous laisser seul, il me faut, au titre de mon devoir d'information, vous faire part de ce qui va arriver afin que votre décision soit prise en pleine conscience. D'abord, vous serez traité et traîné comme moins qu'un homme à coup sûr. Or, la présence de l'avocat, sa seule présence, permet à minima de rappeler à vos accusateurs, juges et bourreaux, votre humanité et la nécessité de respecter en toutes circonstances la dignité humaine, sans cependant garantir qu'elle sera effectivement respectée. Au moins, aurons-nous essayé. Ensuite, Rabbi, vous allez être interrogé par des gens animés manifestement d'une immense haine à votre égard. La présence de l'avocat permet, j'en suis sûr, de tempérer, même inconsciemment, cette haine en leur imposant de veiller au respect de la procédure si les uns et les autres ne veulent pas avoir de compte à rendre aux autorités, aux familles, au grand public, à l'histoire. En lisant ce passage, voyez, j'ai pensé, pour moi qui, ayant gamin, ai vécu en Iran, aux événements qui se déroulent aujourd'hui donc en Iran, et... où les personnes qui sont arrêtées n'ont pas d'avocat. Donc les policiers en face d'eux peuvent faire effectivement tout ce qu'ils veulent. Et on mesure bien, à travers ce passage, toute l'importance que revêt l'avocat dans une démocratie pour pouvoir à un moment donné effectivement protéger une personne, faire valoir ses droits et surtout ce terme que vous avez, que vous réemployez, faire valoir son humanité. Voilà, moi je voulais vraiment, Laurent Delvolvé, recommander votre roman « L'avocat de Jésus » publié chez Pierre Tecky éditeur. C'est la première fois qu'on a commenté donc un livre de cet éditeur. On espère d'ailleurs pouvoir interviewer le directeur de cette maison d'édition pour qu'il nous parle un peu de sa politique éditoriale. Un dernier mot, Laurent Delvolvé, si vous pouviez revenir dans le passé et défendre Jésus, seriez-vous aujourd'hui un avocat différent de celui que vous avez été dans votre roman, ou est-ce que vous diriez exactement la même chose?
Ah, écoutez, c'est toujours difficile puisque on plaide et on assiste dans l'instant présent, c'est-à-dire que on peut tout préparer. L'avocat il prépare encore, il travaille énormément avant les audiences, mais sa façon de se comporter dépend essentiellement de ce qui va se passer à l'audience. Les incidents d'audience, la façon dont les juges se comportent, les différentes parties. Et donc, tout le jeu de l'avocat, hein, le jeu au sens positif du terme, la préparation de l'avocat, c'est d'être prêt sur le moment présent. Et donc, si on devait recommencer à assister Jésus, d'ailleurs, on le fait chaque jour à la messe, hein, le procès de Jésus se reproduit chaque jour à la messe, hein, je le rappelle, tout dépendra de la façon dont je suis moi-même et il faudra être prêt en fonction de l'instant présent à défendre avec les éléments, la salle, tout ce qui va se passer. Et donc quand vous me posez la question de savoir si je referai exactement la même chose, je préparerai exactement de la même manière, mais ce qui va advenir, eh bien seul l'instant présent le dira.
Seul l'instant présent le dira. Écoutez, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur cette antenne, Laurent Delvolvé. L'avocat de Jésus, publié chez Pierre Tecky, éditeur, où vous mettez dans la peau de l'avocat de Jésus, mais tout en faisant un lien, en ayant une porosité avec l'époque actuelle et en expliquant effectivement l'intérêt incontournable dans nos démocraties, effectivement, du rôle de l'avocat. Merci encore d'être présent. Et puis, Laurent Delvolvé, on compte sur vous. Si vous écrivez un autre roman, vous n'hésitez pas à nous l'envoyer en service de presse à présence et on reviendra vers vous avec grand plaisir.
Merci de m'avoir entendu et à très bientôt.
À très bientôt.
Félicitations pour votre émission.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien écoutez, je suis bluffé, monsieur Noli, vous démarrez bien l'année.
Ah.
Je suis fier de vous.
Je vous ai donné envie de lire, je sens, Philippe Subarcaz.
Ah oui, oui.
C'était mon premier pari de l'année, ma première résolution de l'année. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure à Digo Arabal. Ma première résolution, c'était faire lire Philippe Subarcaz.
Oui, d'autant plus que le livre est quand même relativement concis, puisqu'il fait quoi? Il fait une 150, 200 pages. Même pas.
120 pages, ouais. Mais vraiment.
C'est dense.
C'est vraiment un plaisir, effectivement, de le lire. Et puis c'est cet aspect qu'il a. Vous savez, un roman, ce qui est bien, c'est d'avoir quelque part un angle mort que n'ont pas traité les autres. Alors Laurent Delvolvé nous l'a expliqué, hein, il y a eu d'autres personnes, d'autres avocats qui ont écrit des livres effectivement sur le procès de Jésus. Moi, c'est le premier que je lis.
D'accord.
Et je dois avouer que ce qui est bien, c'est que c'est un avocat qui l'écrit, comme lorsque c'est un policier dans les polars que nous présente Diego Arabal.
C'est de quoi il parle.
Voilà. Et moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que justement, je m'attendais pas à trouver ça, c'est-à-dire cette première rencontre, comme il dit, avec un prévenu, et notamment cette humanité qu'il fait passer. Et le fait que sa seule présence, comme il le dit dans l'extrait que je lisais tout à l'heure, ben ça fait qu'à un moment donné, ben les policiers, ils vont faire attention, effectivement, peut-être à pas trop secouer la personne. Et on sait que, bon, en démocratie, comme dans une dictature, il n'y a aucun problème, hein, ça je l'ai connu en Iran quand j'étais gamin, mais il peut à un moment donné, effectivement, c'est le dernier rempart qui peut exister, et c'est pas neutre. Et je pense que c'était bien que ça, il nous le rappelle. Et bon, voilà. Et je voulais dédier cette émission, si vous permettez, Philippe Subarcaz, à Robert Badinter, hein, vous savez, bon, qui était avocat, hein, qui donc est rentré au Panthéon. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image de tous ces avocats qui ont lu des textes que Robert Badinter avait préparés. Et comme le disait très bien Laurent Delvolvé, on prépare, mais ce qui va se passer à chaque fois va déterminer effectivement donc la posture de l'avocat.
Très bien. Eh bien, écoutez, avec ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Ah oui, eh bien, avec voilà. Plaisir.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subarcaz. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
Présence à Mirande 104.2.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
L'amitié avec Dieu est un don. La prière est nécessaire pour cultiver l'amitié avec le Seigneur. Le pape a poursuivi ce matin ses